Bonjour à toutes et à tous, Didier Delatte sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Un rendez-vous compte essentiellement jeunesse, culture, créativité, mais également spiritualité. Aujourd'hui, en effet, je vous propose une de ces rencontres inattendues qui nous viennent de la nuit des temps et des hommes, que j'aime bien partager avec vous. Bonjour Léa.
Bonjour.
Bonjour Tom.
Bonjour.
Alors, qui êtes-vous? En quoi vous nous venez un peu de la nuit des temps et des hommes, en quelque sorte?
Profonde question pour débuter. Alors, qui sommes-nous? C'est plus simple pour répondre à la question. Là, on est jeunes diplômés de Izard Digital, qui est une école qui propose des formations donc, autour du jeu vidéo, du cinéma d'animation et de la musique pour aussi ses productions audiovisuelles. Et du coup, on a fait 5 ans d'études dans cette école et là, ça y est... On a terminé et on a terminé avec un projet de fin d'études qu'on a développé pendant un an et demi. Donc, se lance dans le grand bain.
Voilà. Donc, en fait, votre projet de fin d'études, c'est un film de 4 minutes à peu près.
Ouais.
Qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle Quand vient l'aube.
D'accord. Alors, c'est un film que je trouve superbe. Vraiment, qui raconte une histoire. D'ailleurs, je vais vous demander de la présenter. Et on reparlera après de la réalisation, de vos inspirations et de tout, la technique, le travail d'équipe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, cette histoire?
Alors, l'histoire, en fait, elle est assez simple parce qu'on a voulu mettre en scène uniquement un rituel. Donc, il s'agit d'un personnage de vieux chaman qui se rend dans un temple où se trouve une défunte et il va devoir performer un rituel pour aider son âme à rejoindre l'au-delà. Mmh. Et en fait, on voulait juste un scénario comme ça très simple parce qu'on savait qu'en 4 minutes de temps, c'était compliqué de vraiment développer quelque chose avec une histoire, avec des dialogues. Et donc, on voulait se concentrer plus sur l'image et sur comment véhiculer des messages de manière plus simple.
D'accord. Rien à ajouter.
Rien à ajouter.
Elle résume bien. Oui, oui. Alors, on va écouter un petit peu la bande-son, qui est magnifique et qui correspond tout à fait à l'histoire, aux images. Hein, on y reviendra tout à l'heure. Vous êtes bien sur IDFM. Voilà, on va retrouver Tom et Léa, donc ils vont nous parler de leur réalisation de fin d'études, Quand vient l'aube.
Tout à fait.
Alors moi, quand j'ai vu le film la première fois, sans rien connaître du scénario, je me suis imaginé que vous aviez réinventé un des plus vieux mythes du monde, c'est-à-dire la création du jour, la création de l'aube, justement. Parce que le titre, il nous induit un petit peu dans cette direction. Donc vous n'avez pas voulu reproduire, par exemple, ce qui commence dans la Bible, la Genèse, et Dieu créa la lumière, et la lumière fut, etc. C'était pas ça.
Non, c'était pas exactement ça. Comme l'a dit Léa, l'idée de base, c'était plutôt d'évoquer le rapport à la mort dans un cadre assez simple, en fait, pour permettre au merveilleux d'exister. Et finalement, pas tellement prendre le spectateur par la main, le laisser voyager avec nous pendant ces 4 minutes. Mais non, c'est étonnant. En fait, ce qui est assez chouette de constater, c'est de voir que les gens ont leur propre interprétation du film, ce qui est plutôt une preuve de réussite, je crois. Mais non, en effet, on n'a pas encore évoqué ce côté primaire dont vous venez de parler.
Mais c'est vrai que, en fait, on a voulu vraiment travailler sur le symbolisme dans le sens où, en fait, là, il s'agit, si on grossit le trait, il s'agit uniquement d'un passage. Et en fait, c'est le passage de la vie à la mort, enfin de la mort à la vie en l'occurrence, vu qu'il y a aussi cette idée de réincarnation. Donc c'est vraiment le passage de l'un à l'autre, mais c'est aussi de la nuit au jour. Et c'est en même temps Voilà, en fait, c'est pour ça que c'est quand vient l'aube, c'est au final l'aube de sa nouvelle vie future, même si actuellement on la voit pas dans le film. Donc effectivement, oui, c'est avant tout un film sur le rapport à la mort, puis le passage, mais en fait, ça peut se décliner sur sur tout un tas de notions, puisque c'est suffisamment large pour être relié à d'autres thèmes, quoi. Donc.
Alors j'ai vu que le genre, c'est contemplatif et onirique. C'est comme ça que vous définissez, effectivement. Alors, vous venez un petit peu d'en parler, vous avez quand même une réelle culture, une sorte de fascination pour ces récits, où justement il est question de passage entre la vie et la mort, entre la mort et la vie. C'est vraiment une de vos préoccupations, en tant que jeunes gens, comme ça. Vous avez quoi, 22, 23 ans ?
Un petit peu plus, mais ouais. Dans ces eaux-là, oui.
Ouais, ouais.
Préoccupation, je ne sais pas, mais c'était une nécessité que de se plonger dans ces... dans ses contes, dans ses récits, dans ses mythes, pour donner une base solide et crédible à notre film. Je ne pense pas que ça nous tracasse quotidiennement ce rapport à la mort.
Vous avez le temps.
On a encore le temps devant nous. Mais non, c'était vraiment dans un souhait de bien faire les choses, de pas tomber à côté.
Alors, vous l'avez dit, hein, ce projet vous a demandé plus d'un an et demi, c'est ça ? Donc c'est énorme, ouais. Pour 4 minutes de réalisation. Au fait, vous avez été validé pour ce projet ?
Oui, c'est bon.
Ne m'étonne pas. Alors, bien sûr, vous n'avez pas pu vous inspirer de la série Netflix qui passe en ce moment, qui s'appelle Chaos. Vous en avez entendu parler ?
Pas du tout.
Alors, moi, je l'ai regardée. J'ai été vraiment très, très enthousiaste de cette série qui, finalement, présente de façon renouvelée, tout à fait innovante, le voyage des morts vers la renaissance promise par les dieux grecs. Mais qui en fait n'arrivera jamais. Et donc voilà, c'est un petit peu ce fil conducteur. C'est pour ça que je vous demandais, est-ce que c'est un thème qui préoccupe la jeunesse d'aujourd'hui ? Le monde futur, la mort, la réincarnation, enfin bref.
Mais je pense que c'est un thème qui préoccupe le monde entier en fait. Et c'est
je
pour
t'en
ça
tire bien
aussi.
Là. Ouais. Ouais,
ouais. Parce que en fait, c'est aussi pour ça qu'on s'est dit que c'était intéressant, c'est qu'on savait que la mort, c'est un thème, c'est universel. On y passe tous, c'est intemporel, et ce qu'on trouvait intéressant, c'est qu'on sait que en France et en Occident, plus globalement, on a une vision qui est à peu près égale partout de la mort, donc comme étant une fin, comme étant quelque chose aussi d'assez triste, tragique, et on s'est dit que c'était intéressant d'aller chercher en fait des spiritualités, voire même des religions, des cultures, dans lesquelles la mort n'était pas une fin en soi, et donc le présenter et montrer, voilà... comment est-ce que ça pouvait se passer aussi de manière poétique et sans tristesse, quoi.
D'accord. Donc, vous avez réalisé ce film de fin d'études dans le cadre de votre école, Isart. Ça a l'air d'être une école très performante.
Alors, Isart Digital, c'est une école qui est dans le 11e boulevard Richard Lenoir, pas très loin de Bastille. Et donc, elle nous forme en 5 ans. Donc, on apprend dans un premier temps les bases, je dirais, de l'art, un peu sous toutes ses formes, de la peinture au dessin anatomique. Et par la suite, on se dirige vers une voie plus spécialisée pour nous permettre, au bout de ces 5 ans, de faire un film de fin d'études.
D'accord. Est-ce que dans votre cursus personnel, voire dans votre famille, on a aussi des artistes comme ça ?
Enfin, moi, je sais que dans ma famille, du coup, j'ai principalement au niveau de mes deux grands-pères, je sais qu'ils avaient vraiment un attrait pour l'art, et que ce soit, mais plutôt d'un point de vue les arts plastiques ou la peinture. Je pense que ça a dû être... voilà, un peu un moyen aussi de moi m'initier à ce genre de milieu. Mais au final, je pense que c'est plus une... Enfin, moi, j'ai l'impression que ça a plus été une réflexion personnelle où je me suis dit... en gros, j'arrivais pas à faire le choix entre est-ce que je voulais faire du dessin, est-ce que je voulais faire de la danse. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, mais dans le dessin animé, ben, y a de la danse et il y a du dessin. Et il y a de la peinture et il y a de la musique et il y a de la littérature. Et en fait, ça permet de concilier tous les arts en même temps. Et donc, ça faisait sens, quoi.
Et toi, Tom ?
Moi, je sais que j'ai été marqué par une interview de Alain Damasio qui parlait de réinventer les imaginaires. Et je trouve que le cinéma d'animation colle parfaitement à cette définition. Et c'est peut-être un peu prétentieux que de dire artiste, même si je vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait se définir autrement. Je trouve ça vraiment la place que prend l'artiste dans la société. Je crois qu'elle est fondamentale. Donc, c'est ça. Dans mon cas, c'est plutôt une réflexion personnelle plutôt qu'une inspiration quelconque par
ma famille. Alors justement, dans quel domaine vous vous projetez maintenant que vous êtes diplômé?
Et bien, sur du très court terme, puisque la semaine prochaine, nous partons au Canada, ça sera plutôt un projet outre-Atlantique.
Au niveau professionnel?
Au niveau professionnel, ça risque d'être dans le cinéma d'animation, parce qu'il y a un gros pôle...
En France
et à l'étranger également, ouais. Parce qu'en tant que talent français, on est assez plébiscité.
Ça fait plaisir à entendre.
Donc au niveau professionnel, ça sera surtout sur le cinéma d'animation. Enfin, c'est notre souhait sur le cinéma d'animation à l'étranger dans un premier temps et puis revenir dans un second.
Revenir quand même.
Sauf surprise.
On est en train de se rendre compte aussi avec le départ que... Enfin, un peu de toutes les attaches qu'on a aussi en France. Donc on verra.
On écoute un autre extrait de la bande-son de votre film... Nous sommes toujours bien sur EDFM avec pour invité de ce rendez-vous compte Léa, jeune étudiante en réalisation vidéo, et Tom, idem, qui continue à nous parler de leur film de fin d'études, Quand vient l'aube. Alors, c'est un travail d'équipe.
Ah oui.
Je crois que vous n'avez pas été que deux à tout faire.
Non.
Alors, comment ça s'est passé? Combien de temps? Avec quel matériel? Comment? Quelle équipe?
Eh bien, on était un groupe de 6, pour la partie, en tout cas, 3D graphique. Il y avait ensuite 4 étudiants en musique qui se sont ajoutés. Donc au final, on était quand même un groupe de 10, même si on était 2 équipes. Et en fait, ce sont des équipes qui ont été faites par les professeurs et aussi avec nos souhaits. Mais en fait, ils se sont basés sur les compétences de chacun. Parce qu'en fait, assez rapidement dans nos études, on voit que certains ont des appétences pour certains métiers plutôt que d'autres au sein de la production d'un film d'animation. Et en fait, à partir de là, on va constituer des équipes avec les ingrédients qu'il nous faut pour faire un film, en fait. Donc voilà, on a été tous mis ensemble par rapport à nos forces et nos faiblesses, et c'est comme ça qu'on constitue un groupe.
Ah, bien dit, belle définition. Alors Léa, je crois, j'ai lu que tu avais écrit le scénario, écrit et dirigé. Vous avez fait une équipe de 3 garçons, 3 filles, apparemment.
Oui. Ouais.
Hein, c'est ça? C'est bien. Et Léa, tu étais, je cite, la directrice artistique, le concept artiste et environnement, c'est ça?
Ouais.
Ça veut dire quoi, en fait?
Alors, en fait, ça veut dire que, en gros, dans un film d'animation, on est très découpé en termes de rôle, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Et donc, ce qui fait qu'on va tous avoir un peu des rôles. Donc moi, en l'occurrence, alors sur la partie scénario, dire que c'est moi qui l'ai écrit, ce serait faux, parce qu'on a quand même, on a travaillé à 6 dessus et... Tom et moi avons un peu dirigé cette phase-là, mais on était quand même vraiment en travail d'équipe pour cette décision-là. Et ensuite, effectivement, j'ai eu différents rôles. Donc, à la direction artistique, on était 2 dans l'équipe. Un qui avait un profil plutôt technique et moi qui avais le côté plus artistique, mais donc on se complétait bien. Et ensuite, concept artiste et environnement, ce sont 2 rôles qu'on peut avoir dans la production d'un film d'animation. Donc concept artiste, c'est la personne qui va faire tous les concepts, donc designer les personnages, les environnements, vraiment conceptualiser à quoi tel élément va ressembler, comment le personnage doit être habillé, et aussi qu'est-ce que son apparence va dire de son tempérament. Donc c'est un rôle qui est assez décisif parce que c'est là vraiment qu'on crée l'identité visuelle d'un film. Et l'environnement, c'est sur la partie 3D, c'est vraiment la fabrication des environnements. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai fait les environnements intérieurs. Donc en fait, on est dans un temple. Oui. Il y a une grande partie du film qui est dans le temple. Et donc, c'est construire les murs, le sol, faire l'autel, faire les bougies, tout ça. Donc mettre en place tout ce décor-là, quoi. Et donc, par exemple, Tom, de son côté, lui, était plutôt axé sur les effets spéciaux. On dit FX artiste dans le milieu.
Alors, quels effets spéciaux, par exemple, dans ce film-là?
Dans ce film-là, on parle surtout de l'âme, puisque la défunte de notre film d'animation Enfin, le chaman vient extraire l'âme de cette défunte pour l'emmener vers les cieux, pour la guider vers les cieux. Et donc, il était nécessaire de le faire corps, enfin, de lui créer cette comment on pourrait l'appeler ?
Cette boule de feu, de lumière.
Cette boule de lumière.
D'énergie, ouais.
Et en fait, c'était donc du ressort du FX Artist de créer ces effets-là, ces effets qu'on appelle dynamiques, dès lors qu'il y a un phénomène physique qui rentre en jeu. Donc, ça peut être le vent dans les tapisseries du temple dont Léa vient de parler, l'eau, le trajet du bateau à la surface de l'eau qui vient créer ces mouvements, également cette boule de lumière.
Oui, parce qu'en fait, il y a trois lieux différents. Il y a le premier temple où le chaman retrouve la défunte. Ensuite, il traverse une rivière entourée de végétation luxuriante, etc. Et là, c'est dans une sorte de vert, des couleurs sombres. Et c'est très, très beau. C'est très lent, hein, l'histoire de la barre qui glisse comme ça. Et après, il y a le deuxième temple où il va extraire l'âme et puis l'envoyer dans le ciel, en fait. Et à chaque fois, les lumières sont très importantes. Hein, et notamment, tu parlais des bougies. Elles sont très très belles, ces bougies, parce qu'elles créent une lumière chaude. Et puis il y a toute une gamme de lumière orange, de lumière jaune, tout ça, c'est magnifique.
C'est vrai que le jeu de lumière a été essentiel.
Ouais, c'est magnifique.
Dans la manière dont on a pensé le film, en effet, l'extérieur, plutôt dans les tons bleutés, venait entrer en contraste avec l'intérieur, qui lui était plutôt chaleureux, plutôt dans les tons chauds. Et tout ça a été pensé de manière en symbiose, si je puis dire.
Ouais, parce que, comme je le disais au début, en fait, vu que tout a été une question de symbolisme, dès qu'on pouvait mettre du sens dans nos décisions visuelles, eh ben, on le faisait. Donc c'est pour ça que cette notion de dualité, même jusque dans les couleurs, eh ben, c'était important aussi, quoi. Pour nourrir le propos, même si c'est pas quelque chose qu'on capte à première vue en regardant le film, on se dit pas « Oh là là, l'extérieur est bleu, c'est dire que c'est froid et que donc c'est la mort et l'intérieur est chaud comme la vie. » Mais ça contribue quand même à faire une harmonie en fait, globale du film, quoi.
Alors le film a été réalisé, je cite toujours, en motion capture. Qu'est-ce que c'est en fait ?
La motion capture, alors il n'a pas été réalisé en totalité en motion capture, mais c'est en fait on a une partie du film qui est la partie du rituel où le chaman doit danser. Et en fait c'était très compliqué d'envisager de faire une animation 100%, on appelle ça animation keyframe, donc c'est vraiment à la main. Parce que déjà, animer, c'est long. On avait une seule animatrice sur ce rôle. Et en plus, animer une danse, c'est encore plus spécifique parce que c'est un mouvement qui n'est pas du tout habituel, quoi. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté une danseuse pour qu'elle vienne faire la partie rituelle du chaman. Et donc, le principe de la... On parle de la mocap pour la motion capture, du coup. C'est de mettre une combinaison sur la personne qui va incarner le personnage. Et en fait, avec des petits capteurs qui sont reliés à un logiciel, on vient récupérer les informations de mouvement. Et donc, ça fait qu'on a une base 3D avec déjà un personnage qui bouge comme l'a fait le danseur. Et ensuite, on peut retravailler dessus. Donc, ça nous avance quand même dans le travail, quoi.
Alors, tu vois, tu me dis que vous avez fait venir une danseuse. Et effectivement, je me suis dit en regardant le film que ce chaman avait quand même des allures féminines, ne serait-ce que les bras, les mains qui sont très fines, et puis sa danse qui est très souple aussi. Donc, voilà, je comprends un petit peu. Peut-être ça vient de là. En même temps, bon, ils peuvent être effectivement androgynes. Enfin, ça peut être, voilà. Non, c'était très, très, très bien. Alors, la musique, donc on l'a dit, joue un rôle essentiel. Ce sont deux camarades à vous qui l'ont composé, ou plusieurs, non ?
C'était quatre.
Quatre, ouais.
Et oui, ils ont travaillé de pair avec nous, parce qu'en fait, on ne savait pas, lors de la réalisation du film, si la musique allait venir en amont de nos images, ou en aval, et de fait, c'était nécessaire pour nous que de travailler en collaboration avec eux, pour, une fois de plus, créer cette homogénéité tout au long du film.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte aussi que, nous, visuellement, on arrive à imaginer plein de trucs. Et en fait, quand il s'agit d'imaginer la musique, voilà, on n'avait aucune idée de à quoi ça pouvait ressembler. Mais par contre, ce qu'on avait, c'était des intentions. Et du coup, c'est très intéressant d'aller communiquer avec quelqu'un pour lui dire, voilà, lui indiquer des textures, lui indiquer des couleurs, ou lui donner même des références pour dire ça m'a vraiment plu, voilà pourquoi, etc. Et ensuite, de voir comment eux, ils travaillent vraiment ces informations-là pour en faire la musique du film.
Et est-ce qu'ils voyaient les images en même temps ou oui. Qu'est-ce qui est né en premier, les images, la musique
On leur a fourni une base de travail assez brute finalement. Et de celle-là, ils ont réussi à en tirer quelque chose de musical. Donc oui, ça s'est fait d'abord par les images, puis par la musique. Et ensuite, comme ça, de manière un peu alambiquée, les deux ont été montés en même temps.
On peut peut-être citer leurs prénoms.
On peut les citer.
Oui.
Tout à fait. Alors, donc, on a travaillé donc avec quatre garçons. À la musique, il y avait Aurélien Lamy et Stanislas Darnoux de Fleury. Et en sound design, du coup, vu que c'est deux compétences distinctes, il y avait Mel Jost et il y avait Pierre-Alexis Condé.
Puis on peut ajouter aussi le nom de celle qui a fait la motion capture.
Tout
parce que
fait.
Je crois qu'elle a un prénom qui semble sorti des histoires des chevaliers de la table ronde. Enfin,
oui.
Un très joli prénom.
Elle s'appelle Isée Liénard.
Alors, on va écouter un troisième et dernier extrait de la bande-son de votre film. Film donc qu'en vient l'aube. Nous sommes toujours bien sur IDFM, on retrouve nos invités de ce jour, Léa, donc jeune étudiante en réalisation vidéo, et Tom, la même chose, hein, qui continue à nous parler de leur film, donc de fin d'études, Quand vient l'aube. Est-ce que vous avez bénéficié de nombreux sponsors?
Aucun.
D'accord.
Bon.
Et d'aide technologique quand même, donc le matériel fourni par l'école.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout ce qui est logiciel et ouais. Matériel informatique a été fourni par l'école, ouais. Mais c'est dans le cadre du
cursus.
Du cursus.
Et, vous pouvez donner le nom d'un logiciel, par exemple?
Le premier, ça s'appelle Houdini, un logiciel qui nous a permis de faire principalement le lighting, donc toute la partie éclairage de ce court-métrage. Et le second, je dirais Maya, qui a servi à notre animatrice principalement pour animer la danse du chaman.
Alors, on en a parlé un petit peu. Est-ce que vous voulez faire passer un message ou pas? Ou alors c'est simplement quelque chose d'un peu ludique à travers ce film?
En fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début, on se disait donc on voulait pas vraiment faire quelque chose de très développé d'un point de vue scénaristique. Mmh. Et donc se concentrer plus sur l'image, mais ça nous semblait impensable de faire un film qui soit uniquement de l'image, et donc forcément il y a un sens dedans. Après, je sais pas si nous personnellement on a envie de véhiculer un message, mais ce qui est certain c'est qu'on a plutôt envie de présenter une manière de voir les choses, une considération de comment est-ce que ça peut être le passage de la vie à la mort, du fait que ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être beau, ça peut être poétique, ça peut ouvrir sur autre chose, ça peut, sans être quelque chose forcément de joyeux, mais juste représenter un passage et donc se dire que c'est juste pas une fin en soi et voilà quoi.
Alors peut-être que dans notre monde compliqué aujourd'hui, il manque des chamans. pour faire ces passages. Si vous faites un bilan personnel de cette expérience, de vos années, au niveau des compétences acquises, je pense qu'elles sont larges, mais aussi relations humaines. C'est pas rien de travailler pendant un an et demi avec une équipe de 6.
Ah non, c'est très formateur. Ouais, vous avez mentionné les compétences techniques et relationnelles, les compétences relationnelles qui priment par rapport à celles techniques. C'était essentiel que de communiquer, que de réussir à communiquer, que de comprendre les besoins de chacun, les compétences, les faiblesses, parce que c'est dans le cadre d'un projet comme ça, ça sort un peu du cadre de l'école. On y passe nos soirées, on y passe énormément d'heures, et il était nécessaire pour la bonne harmonie du groupe que de comprendre les besoins, les compétences de chacun.
Oui. Ouais. Ben parce qu'en fait, un film, au-delà du fait que ce soit un projet artistique, c'est surtout un projet fatigant. Dans le sens où, en fait, l'aspect, justement, soft skills, donc communication, travail d'équipe, adaptabilité, en fait, il prend vraiment sens face au fait que, comme dit Tom, on doit travailler tout le temps, sans relâche, et que si on veut avoir un projet vraiment bien à la fin... En fait, il faut vraiment donner de sa personne, et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, c'est que c'est pas juste travailler en équipe, c'est travailler en équipe pendant un an et demi, sous pression, et aussi en dormant peu et en y passant beaucoup de temps. Donc c'est aussi de la gestion de sa communication et de ses émotions quand on est dans des situations où physiquement ça nous met aussi un peu à l'épreuve, quoi. Mais ça s'est super bien passé, donc c'était vraiment une bonne chose. Perso, je suis assez contente de la manière dont on s'est goupillé tous ensemble, parce que on a réussi à maintenir vraiment une bonne énergie, un bon rythme, et surtout une bonne communication avec tout le monde. Donc c'est quand même ça, pour le coup, c'est vraiment une réussite.
Tom, même bilan?
Oui, le bilan est partagé.
Alors Léa, tu es donc directrice artistique, on va dire, je dirais, y compris sur cet objet 3D bien réel, ton propre corps. Puisque justement, tu y as inscrit de nombreux tatouages.
Oui.
On en parlait un peu avant de l'émission. Tu as éprouvé ce besoin de te finalement transformer en objet aussi artistique?
Ouais, et en même temps, ce qui est marrant, c'est que là, en l'occurrence, c'est pas ma direction artistique, parce que c'est la direction artistique de ma tatoueuse. C'est pas moi qui fais les dessins. Mais en fait, de ce côté-là, j'ai juste considéré que mon corps, c'est ma maison. Comme je décore ma maison, je décore mon corps. Ça me semble... être en fait une raison valable pour se faire tatouer.
Alors ce sont des tatouages, je disais, assez doux, assez paisibles finalement, qui vont bien vieillir, on va dire. Qu'est-ce qui représente ces tatouages?
Eh ben, pas grand-chose.
Voilà, c'est le secret d'un bon tatouage.
Exactement. C'est un parti pris, parce que tout le monde a un rapport assez personnel au tatouage et puis à son corps, donc... Il y a des gens qui vont chercher des symboles, des souvenirs dans les tatouages, ou alors des références, des choses qui leur rappellent des choses qu'ils ont eues dans leur enfance, ce genre de choses. Moi, je considère que j'avais pas envie d'avoir une quelconque temporalité dans mes tatouages, parce qu'en fait, je veux qu'ils me parlent à tout âge de ma vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, en fait, c'est des tatouages qu'on pourrait dire... traditionnels, disons, je vais pas dire ancestraux, mais en tout cas qui s'inspirent de motifs berbères, amazigues, voire de motifs aussi de l'ancienne Yougoslavie pour certains. Donc c'est des choses où je me suis dit, ça existe depuis la nuit des temps.
Voilà, c'est ce que je disais en introduction de mon émission, ça tombe bien.
Exactement, ça existe depuis la nuit des temps, c'est pour beaucoup, en fait, c'était des tatouages qui étaient portés par des femmes. Et qui sont devenues par la suite des vieilles femmes. Et en fait, je me suis dit, mais si ça leur va à elles, ça m'ira à moi aussi plus tard. Donc, si ma seule crainte, c'était d'avoir des tatouages qui vieillissent mal, elle a été résolue de la sorte.
Une grande sagesse, finalement. Voilà. Alors, donc, vous nous l'avez dit, vous partez très prochainement au Canada. D'ailleurs, à l'heure où cette émission sera diffusée, vous serez déjà au Canada, depuis déjà un petit moment. Pourquoi le Canada ?
Le Canada, pour plusieurs raisons. Ses étendues. Ces montagnes, ces nombreux lacs, mais également parce que c'est un hub, si on peut l'appeler comme ça, de l'industrie 3D. Montréal particulièrement, Vancouver aussi, et que c'était pour nous l'opportunité de partir découvrir le lointain, mais tout en étant rassuré par le monde de la francophonie qu'on va retrouver là-bas, et toutes les opportunités qu'il va y avoir, donc...
Donc pour vous, une nouvelle aube qui vient.
Exact.
Voilà.
Alors vous m'avez fait une promesse avant qu'on commence l'émission, celle de nous envoyer de temps en temps de vos nouvelles, sous forme de petites chroniques canadiennes. je pense que ça serait vraiment super.
Eh bien, avec plaisir.
Voilà. Maintenant, c'est prêt. C'est enregistré.
Nous sommes engagés.
Merci à vous deux. Et puis, bon voyage.
Merci.
C'était Didier Delatte sur EDFM. Cette émission sera disponible en podcast dès sa diffusion. La semaine prochaine, même heure, même adresse. On fera le plein de culture, d'histoire et d'engagement dans notre département et dans notre rendez-vous compte, évidemment.